Il est là, Gabriel Giguère, économiste à l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment ça va?
Ça va très bien, bonjour.
Gabriel, les voitures électriques, c'est encore là, hein? Il y a une dichotomie, là. Il y a des gouvernements qui nous disent d'acheter des voitures électriques, ils mettent des quotas très élevés et les gens sont pas, on n'est pas capable d'atteindre les quotas parce qu'on n'est pas encore rendu là. Et les prix des voitures électriques aussi, là, c'est pas donné non plus.
Ben, ce qu'on voit encore actuellement, c'est que le gouvernement du Québec a ses vieilles cibles là, qu'on avait mis il y a plusieurs années. Donc, l'objectif, je le rappelle, pour 2026, c'était 32,5% de véhicules neufs électriques. On est à 85% en 2030. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est complètement déconnecté au sein du gouvernement du Québec. Puis on l'a compris là, qu'on est déconnecté. Donc, le mois dernier, on était en consultation. En fait, le gouvernement est en consultation auprès de la population pour dire ben, est-ce qu'on n'adopte pas de nouvelles cibles? Plutôt que simplement dire on est tellement pas bon pour savoir dans 2 ans, imaginez dans 10 ans comment sont pas bons, la quantité de véhicules électriques qui va réellement être achetée. Donc, l'abolir, la règle du conduit, c'est ben non, on va réduire notre cible, puis on va augmenter les crédits alloués aux hybrides branchables, on va créer des nouveaux crédits pour les hybrides qui sont pas branchables. Concrètement, là, on réduit la cible, on augmente les crédits alloués, fait qu'on essaie d'avoir une forme de réglementation qui se colle à la réalité, plutôt que de simplement dire, j'en ai aucune idée où on s'en va, j'en ai aucune idée où les Québécois veulent aller, mais une chose est sûre, depuis des années, les Québécois ne veulent pas ce que nous, au gouvernement, on veut. Donc, laissons-les tranquilles. Autrement que ça, ce qu'on dit, c'est qu'on veut simplement venir modifier quelque chose qui ne fonctionne pas au sein du gouvernement du Québec.
Est-ce que ça doit être un enjeu de la prochaine campagne électorale? Parce que là, on a vu la CAQ reculer hein, sur ces cibles-là, mais ils ne nous ont pas donné encore les guides à suivre. Le Parti québécois nous parle quand même de 2030 pour toutes les voitures au Québec devenues électriques. C'est dans 4 ans. De ce que j'ai vu dans la dernière plateforme, là. Je ne sais pas s'ils ont mis à jour leur promesse ou leur objectif, mais quand même, là, ça doit être débattu, ça, en campagne électorale.
Bien, j'espère que ce sera très certainement débattu, parce qu'aujourd'hui, même les cibles actuelles, on le sait toutes, il n'y a aucune personne au Québec qui pense que c'est réaliste. Il n'y a personne. Peu importe ce qu'on entend, là, c'est évident qu'on n'y arrivera pas. Les nouvelles cibles, je suis assez persuadé que la majorité des gens le comprennent très bien. Puis quand on leur demande est-ce que c'est réaliste, ben 2 Québécois sur 3 nous disent ben non, c'est pas réaliste. On le sait que c'est pas réaliste. On n'en achète pas parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie. On n'en achète pas parce que le prix est trop cher. T'sais, quand on regarde le nouvel analyse d'impact réglementaire qui a été produit en juin de cette année, là, ce qu'on dit, là, c'est qu'une auto comme une Toyota Corolla, on parle de 640 km d'autonomie. Il y a plusieurs autres véhicules à 640 km d'autonomie. La parité de prix pour un véhicule à essence par rapport à un véhicule électrique, ou plutôt le véhicule électrique coûte aussi peu cher que le véhicule à essence, 2047. Non, c'est parce que moi, j'attendais là, constamment que c'était dans 2 ans. On est rendu à parité.
Ouais.
Ça, c'est les fonctionnaires qui veulent nous enfoncer une réglementation. Fait qu'il n'y a personne ici qui peut dire non, les fonctionnaires sont contre les véhicules électriques. C'est impossible là, comme narratif. Donc, même les fonctionnaires qui veulent qu'on adopte la réglementation VZE, le véhicule zéro émission, on comprend qu'ils nous le disent très bien. La parité n'est pas là pour demain. Donc, ça nous coûte plus cher. Les Québécois, avant de penser à sur le cycle de 8 ans, ça va nous coûter moins cher. Non, moi, je veux savoir le mois prochain mon paiement. Est-ce que je suis capable de le payer? La réponse est probablement non, puis ça transparaît très, très clairement dans les nouvelles immatriculations de véhicules électriques. Beaucoup plus basse qu'en 2024 et beaucoup plus basse également que dans les derniers trimestres de 2023.
Bien, c'est ça aussi, Gabriel, on dirait que tu l'as un peu touché, mais le grand oublié dans tout ça, c'est les Québécois à faible revenu ou à revenu moyen, on va dire, qui en arrachent déjà avec l'inflation. On dirait qu'on ne pense pas à eux là-dedans parce que le prix du véhicule électrique le moins cher, c'est quoi? On n'a rien en bas de 40 000. Là.
C'est super cher, Frank, tu as raison de le mentionner. Puis à ça, ça m'a dérangé parce que ce qu'on a vu en fin de semaine dernière, ça a été des groupes de pression, les lobbies d'adoption de véhicules électriques nous sortir un article qui était farfelu, une lettre d'opinion assez farfelue dans les médias, de nous expliquer, en se basant sur les chiffres qui étaient également farfelus des fonctionnaires à Québec, que le fait de modifier, là, même pas d'abolir, de modifier cette réglementation-là, nous coûterait collectivement 17 milliards de dollars.
17 milliards?
Ouais, c'était calculé combien? Milliards. C'était calculé comment cette affaire-là? J'ai rien compris à leur truc. Là.
Exact. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un a compris aussi au niveau du ministère, là, pour être très franc. Là. Mais quand on regarde l'analyse d'impact réglementaire, la grosse majorité du 17 milliards, c'est de nous dire, bon, comme l'électricité coûte moins cher que l'essence, mais que les gens vont acheter de l'essence, ça leur coûte plus cher. Donc, on va intégrer ce coût-là. Frank, c'est un peu... Pierre, c'est un peu comme si on disait, ben regarde, on va... si vous allez chez Liquidation Marie, c'est correct, mais si vous allez au Super C IGA Métro, ça vous coûte plus cher. Donc, on va calculer ça comme surcoût. Attends un peu, là. C'est parce qu'il y a des produits que j'ai envie d'acheter peut-être au Super C ou au Maxi. Non, c'est moi, en tant que consommateur, qui choisis ce que je consomme. Si tu t'achètes une bière de microbrasserie au lieu de t'acheter de la Bat 50 ou de la Pabst, tu ne payes pas en double plus cher, là. Il y a une limite à cette forme de calcul créatif. La réalité, c'est que le consommateur, encore une fois, puis c'est exactement ça. Le coût de la vie coûte plus cher. T'as pas d'argent pour t'acheter un véhicule électrique. Tu t'achètes un véhicule usagé, un véhicule à essence parce que c'est encore des milliers de dollars moins cher. On respecte le choix du consommateur, mais de dire que le libre choix du consommateur lui coûte plus cher, c'est fort de café, là, au sein du ministère de l'Environnement.
Selon toi, Gabriel, qu'est-ce qui doit être fait? Quelle est la décision la plus logique que le gouvernement doit prendre? Là, on parle du gouvernement. Là, c'est la CAQ. Au mois d'octobre, la CAQ sera peut-être plus là. On parle d'un Parti québécois peut-être minoritaire. Ça va être plus serré. La logique par rapport à où on s'en va, parce que le trip de la batterie, les politiciens n'ont rien vu de ça, 2018, 2019, 2020. On pensait que les chars électriques, c'est ça qui s'en venait à grande échelle. Puis là, on comprend que ça va être un petit peu un mouvement plutôt plus lent, là.
Ben, c'est assez simple. Là. Tu prends la réglementation, tu branches ta déchiqueteuse dans le mur, puis tu prends ta réglementation, puis tu la fais passer dans la déchiqueteuse. Là. T'abolis ça, cette réglementation-là. Faut arrêter parce que un des éléments qu'on n'a pas parlé, mais qui est central et extrêmement problématique avec la réglementation, il y a la question du choix du consommateur qui est évident. Laisse le consommateur tranquille. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une structure de crédit qui va coûter extrêmement cher. La raison pour laquelle on donne plus de crédit et on baisse les cibles, par l'équipe Fréchette Coalition Avenir Québec actuellement, c'est en fait que...
On cherchait de l'argent supplémentaire dans la filière automobile?
Ben, le problème, c'est que si on fait ça, le problème, c'est que les constructeurs n'y arriveront pas. Tout le monde le sait que c'est impossible. Tu peux demander à un constructeur de faire 100% d'électrique, mais d'abord, il perd de l'argent avec plusieurs électriques, puis ensuite de ça, ouais, le monde n'en achète pas. Ouais. Fait que, tu sais, ça ne marchera pas. Donc, ce qui arrive, c'est que les crédits, ils ne seront pas capables d'atteindre les crédits demandés, et ça coûte soit des milliers de dollars sur le marché du crédit. Hein, Tesla, Hyundai pourraient revendre de leur crédit en trop. Mais le gouvernement divise les crédits. Concrètement, très bientôt, les constructeurs qui n'y arriveront pas devront acheter le crédit à 20 000 $ au sein du gouvernement du Québec. Et ce que j'ai fait aussi dans mon mémoire déposé sur cette réglementation-là, c'est de calculer en fonction du premier trimestre de 2026 au coût théorique maximal, donc à 20 000 $ par crédit, combien ça aurait coûté aux constructeurs automobiles? Ça aurait coûté 130 millions de dollars pour le premier trimestre, tellement qu'on est déconnecté. Puis là, je parle de la nouvelle réglementation proposée, même pas de l'ancienne, parce que j'aurais été autour probablement de quelque chose comme 200 millions et plus. Donc concrètement, ça va coûter extrêmement cher.
Mais là, la facture, là, eux, ils doivent la refiler à quelqu'un d'autre. Donc c'est les consommateurs qui vont se louer des voitures, qui vont acheter des voitures neuves, qui vont être obligés de payer ces crédits-là, là.
Ben, ça va être concrètement, là, nous autres, les Québécois, c'est soit on achète des véhicules usagés maintenant, soit on l'achète en Ontario, au Nouveau-Brunswick, tout dépendamment où tu habites, parce que ça sera plus abordable au Québec, ou tu achètes ça, puis il va falloir que tu te serres la ceinture. Donc, on est en train de réduire la capacité de mobilité des gens en fonction d'une réglementation que personne veut, puis que personne considère que c'est réaliste. Donc, il y a une limite à l'aveuglement volontaire et à persister dans cette forme d'utopie qui avait été, là, tout le monde en sensait ça en se tapant dans les mains en 2021, 2022, 2023, mais il y a une réalité qui est là, puis il va falloir qu'on s'ouvre les yeux.
Donc la facture, c'est les Québécois encore qui vont la payer. Écoute, 2-3 minutes avec toi, Gabriel, plus de 145 000 règlements au Québec. On est les champions de la réglementation pour les entreprises, entre autres, pour les contribuables. Ça aussi, le fardeau, la paperasse au Québec, on est bon là-dedans?
On est trop bon, c'est ça le problème. Il n'y a vraiment rien à être fier avec ça, là. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de province au Canada où il y a plus d'obligations réglementaires qu'au Québec. Ça coûte extrêmement cher aux entrepreneurs. Ça a été calculé aux alentours de 10,9 milliards en coûts réglementaires, ou plutôt en coûts pour s'ajuster au règlement pour nos entrepreneurs au Québec. C'est des coûts qui sont franchement élevés. Et ça, c'est des avocats qu'on doit embaucher plutôt que des ingénieurs qui peuvent créer. Donc, c'est de l'argent qui va... non pas à la création de richesse, mais à la conformité réglementaire. Il n'y a personne qui...
Ah, mais on tourne en rond, là. On alimente la machine, c'est ça qu'on fait?
Puis il faut pas se surprendre qu'en parallèle à ça, on ait une baisse de l'entrepreneuriat.
Mais
en mai 2026.
Et quand ton monde, ben, avec toutes sortes de paperasses...
Au-delà de ça, Gabriel, en plus, le Québec, il me semble avoir vu qu'on avait signé avec les autres provinces une déclaration avec le fédéral, comme quoi qu'on s'engageait à faire le libre-échange interprovincial pour compenser avec ce qui se passe avec les États-Unis. Si on a des milliers d'exigences réglementaires de plus que d'autres juridictions, il n'y a pas de libre-échange possible.
Ben ça, c'est problématique, Frank, parce que quand on regarde notamment un exemple très concret, la reconnaissance des métiers de la construction, il y a tellement de métiers de la construction à certification obligatoire qui n'existent pas ailleurs au Canada.
On se protège entre nous autres, le Québec se protège. Ouais, c'est ça.
Je peux pas reconnaître ce qui n'existe pas ailleurs, et là, c'est là le problème. Collectivement, on perd, nos entrepreneurs perdent, puis pendant ce temps-là, on embauche plus de monde pour l'État. C'est pas ici qu'on crée de la richesse, puis il faut que ça change en octobre 2026.
Fait que, Gabriel, ce que tu nous dis pour la campagne électorale qui s'en vient, il y a des sujets qui devront être abordés de front. Ils pourront pas s'esquiver. Ils vont peut-être essayer de s'esquiver, mais ils devront répondre à ça. Là. La paperasse, la bureaucratie, la réglementation, les chars électriques. Est-ce qu'on va entendre parler de ça? Est-ce qu'on va être capable d'aller là aussi? Parce que ça se peut qu'il y a des agendas qui diffèrent. Hein?
C'est sûr que l'équipe en place, l'équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec, est là depuis 8 ans. On peut essayer de nous vendre que ce n'est pas le cas,
ouais. Mais
il va falloir répondre d'un certain bilan. Et il y a des débats si on veut s'assurer d'avoir une économie résiliente pour les gens d'aujourd'hui, mais pour les gens de demain, les jeunes Québécois qui ont 5-6 ans, là, qui vont en avoir 20, de ne pas trop les endetter. Il y a des discussions à avoir sur tous les secteurs, plus d'économie, moins de réglementation, moins de taxes. Bref, il va falloir avoir ces discussions-là. Puis pas juste essayer de les décourager, là, parce qu'on le sait, des fois, il y a comme un agenda médiatico-politique qui veut décourager ce type de discussion-là, mais il va falloir en parler au Québec pour s'assurer que ce soit sur la table en octobre 2026.
Gabriel Giguère, économiste à l'Institut économique de Montréal, merci beaucoup de tes observations. Et j'imagine que vous avez été consulté. Y a-t-il des politiciens, des partis politiques qui viennent vous voir pour essayer de voir les enjeux qui peuvent intéresser les Québécois ou on est dans le flou total?
Je vais simplement répondre à ça, Pierre, qu'on est ouvert, hein, c'est non-partisan, ça va me faire plaisir d'aider tous les partis politiques avec un grand sourire.
Merci beaucoup, Gabriel. Merci. À la prochaine. Voilà. Gabriel Giguère, qui était notre invité ce matin. Frank, hein, des enjeux, il y en a, là.
Ben,
on va-tu en entendre parler un jour? On va vous en sortir jusqu'à même matin, des enjeux?
Bien là, il y a une élection qui approche. Ce serait intéressant d'entendre ce que les partis ont à dire là-dessus, ce qu'ils sont encore sur le même récit qu'en 2022. Où ils ont updaté le OS.
Voilà. Non, c'est ça. On va comme déclocher peut-être à fin de la campagne. Des fois, c'est ça, hein, les deux, trois dernières journées. Là, ça se réveille. Là. Bon, voilà. Hey, après la pause, on jase libre-échange. Est-ce qu'on est en récession au Canada? On parle avec un vrai économiste, un gars qui connaît les chiffres, là, Mathieu Marchand. Un gars de Québec qui est économiste, qui embarque dans le show, dans la rotation. On va jaser de ça. On va jaser de libre-échange aussi. Comment tout ça impacte sur l'économie? Vous avez vu, l'économie a ralenti beaucoup. On met beaucoup d'argent, hein? Des bûches dans le poêle. On a des programmes, notamment d'investissement. L'État keynésien, là, c'est ça, hein? On est là. On est encore dans cette bonne vieille mentalité d'alimenter l'économie avec des bûches d'argent public. Mais on en parle au retour. On vient.
Coup sûr dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.